Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, directrice générale d'une petite fondation, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec le journaliste et auteur à succès Carl Honoré. Carl s'est fait connaître par son livre « L'éloge de la lenteur », paru en 2007 et traduit dans 35 langues. Après la lenteur, Carl Honoré plonge à plein dans un autre sujet de notre époque, l'âgisme ou la discrimination basée sur l'âge. Son plus récent livre, « La révolution de la longévité », est un véritable manifeste contre l'âgisme. Nous vivons à un moment de l'histoire qui fait l'apogée de la jeunesse éternelle, alors que paradoxalement, notre société est vieillissante. Lorsqu'on parle d'âgisme, ça débute parfois par le regard distorsionné que nous posons sur nous-mêmes au fil des ans. Trop souvent, on se limite soi-même et on suit, sans vraiment s'en rendre compte, le modèle social proposé qui est loin d'être toujours réjouissant face au vieillissement. La longévité et la santé sont deux sujets qui me passionnent et qui sont au cœur de ma pratique de coach santé. Alors, inutile de vous dire que cette discussion a été animée et stimulante. Dans cet entretien, Carl Honoré nous parle entre autres des dégâts de l'âgisme et de tout ce dont on se prive comme société en mettant nos aînés au rencard. Carl défait aussi un par un les différents mythes reliés au vieillissement. En plus d'être un auteur à succès récompensé, Carl Honoré est également un journaliste présent dans les médias européens, australiens et nord-américains. Communicateur charismatique et engagé, Carl se promène autour du monde pour partager les fruits de ses recherches. Bonne écoute! Bonjour Carl, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Eugénie, ça me fait plaisir d'être ici avec toi, de nouveau.
Oui, de nouveau, après quelques années. Écoute, moi je suis toujours curieuse de savoir d'où arrivent les gens, qu'est-ce qui leur donne l'idée de faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'écrire un livre sur l'âgisme?
Bon, moi, je suis rendu compte que, à un moment donné, que tous mes livres, mes projets, il y a toujours un point d'explosion, une petite crise existentielle. Et dans ce cas-là, avec mon nouveau bouquin Éloge, non, c'est quoi en français? C'est La révolution de la longévité en français. Voilà, j'avais perdu le titre. Oui, en fait, et pour moi, c'était quand je jouais dans un tournoi de hockey dans le nord de l'Angleterre. J'ai marqué un but sans sas, j'étais aux anges et très content. Mais tout d'un coup, un des organisateurs du tournoi m'a informé que j'étais le joueur le plus vieux du tournoi. On était 250 joueurs. Et je savais que j'étais un des plus vieux, je ne délire pas. Mais être le plus vieux m'a complètement chamboulé. J'étais complètement basculé, bousculé. Et j'ai perdu complètement ma joie de vivre, ma confiance. Et je suis assujé des questions. Est-ce que les gens se moquent de moi? Est-ce que je devrais peut-être chercher un autre passe-temps plus... À mon âge, le bingo. J'ai rien du tout contre le bingo. J'aime bien une bonne partie de bingo, mais c'est pas ma passion en ce moment, dans ce moment de ma vie. Alors, je suis rentré chez moi de ce tournoi avec une idée. Je voulais savoir pourquoi mon âge chronologique avait avait tant de pouvoir, avait un pouvoir terrible sur moi, avait la capacité de me définir et aussi de me limiter. Alors je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, un sujet, une découverte. Alors je me suis lancé vers le sujet du vieillissement et de l'âgisme, hein, le culte de la jeunesse.
À quel endroit tu as débuté ta quête? Bon, ça, c'était l'élément déclencheur. En bon Canadien que tu es, tu joues au hockey en Grande-Bretagne et c'était le ha-ha moment qui te fait prendre conscience de ça. Tu as commencé par où, cette quête-là, cette recherche sur l'âgisme et le vieillissement?
Où est-ce que j'ai commencé avec l'enquête?
Oui, par où on commence quand on commence dans un grand travail comme ça?
Moi, je commence toujours avec une période de silence et de réflexion. Alors, pour moi, c'est pas, je cours pas vers la bibliothèque ou vers Google. C'est toujours il y a toujours un espace, un chapitre d'être avec l'idée de me mariner un petit peu dans l'incertitude, dans la découverte, dans le doute. Alors après, peut-être, mettons, je sais pas, 2 ou 3 mois, je me suis rendu compte que c'était devenu une obligation. J'étais obligé d'écrire là-dessus. Alors pour moi, le premier pas, c'est toujours de commencer à lire, à observer, à écouter. Alors c'est comme avoir un radar et qui est éteint avant, puis on l'allume. Mm-hmm. Je commençais à chercher des articles, des études scientifiques, des recherches. Mais au début, c'est vraiment un processus assez interne, hein, et personnel, parce que j'étais dans le piège de l'âgisme moi-même. J'étais un âgiste total, complet. Alors, pour s'en sortir, il fallait faire un travail d'auto-réflexion pour défier un peu mes propres clichés, mes propres préjugés, mes propres peurs, parce que moi, j'avais peur de faire face à mon propre vieillissement. Alors, pas question de se lancer directement à la recherche académique. C'était au début un processus quasiment métaphysique ou philosophique, très personnel, très à l'interne.
Lorsque tu as écrit aussi l'éloge de la lenteur, In Praise of Slowness, ça partait aussi d'un besoin personnel. Donc, tu te sers de tes élans personnels pour amener ça au grand public.
Oui, tout à fait. Je suis très journaliste, je pose toujours des questions, je suis très curieux. Mais pour moi, la force déclencheur, ce qui me pousse vers un projet tellement lourd et tellement long tel que écrire un livre, il faut que ce soit quelque chose de personnel. J'ai besoin de changer quelque chose dans ma propre vie où j'ai perdu un peu ma boussole, j'ai perdu le chemin, j'ai perdu la tête. Et avec la lenteur, moi aussi, j'étais un accro de la vitesse absolue. Alors, c'était... En fait, pour moi, au fond, il faut que je sois honnête, écrire un livre, en général ou d'habitude, pour moi, c'est une espèce d'autothérapie. J'essaie de me guérir et de m'améliorer comme personne. Alors, il y a toujours une dimension assez, pas égoïste, mais je m'occupe de moi-même aussi. C'est pas juste
un projet altruiste
et complètement pour le grand public. C'est aussi une aventure personnelle.
D'entrée de jeu, on va revenir sur l'âgisme. Comment est-ce que tu pourrais définir l'âgisme, la définition que tu lui donnerais? C'est assez nouveau, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Avant, c'était là, mais on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. Comment est-ce que tu décris?
Le mot âgisme a été inventé par un académique américain en 1969. Alors, le mot en soi existe depuis longtemps. Mais la discussion, le débat autour du phénomène, de l'idée, est assez nouveau. Hein? Je dirais que Et moi, je constate, j'aperçois un changement assez profond dernièrement depuis la pandémie, en fait, un changement assez fort par rapport à nos attitudes vers le vieillissement. Mais comment le définir? Pour moi, l'âgisme, c'est la discrimination fondée sur l'âge. En fait, au fond, c'est très simple. C'est l'idée que l'âge chronologique nous met dans une boîte. Alors, tout le monde qui a 45 ans a ces mêmes caractéristiques. Et en même temps, l'âgisme est relié au culte de la jeunesse. Alors, tout le monde est victime de l'âgisme. On peut avoir 18 ans, 22 ans et être victime de l'âgisme. En fait, les gens peuvent avoir des préjugés par rapport aux gens, dire que vous êtes trop jeune pour faire ceci, vous n'avez pas assez d'âge pour, etc., etc. Alors, c'est un problème qui touche tout le monde. Mais au fond, c'est un problème qui touche plus fort et qui affecte plus fortement les gens plus âgés parce que l'âgisme est lié au culte de la jeunesse. L'idée que après un certain âge, vieillir est un processus de déclin 100%. De perte, de déclin, de dépression, de démence, de toutes sortes de choses, d'une gamme de choses péjoratives et négatives. Et c'est complètement universel, en fait, c'est omniprésent. On trouve l'âgisme dans notre propre langage. En fait, ça sort de nos propres bouches sans on s'en rendre compte. Et par exemple, on dit j'ai passé l'âge de. Mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai passé l'âge de? C'est ça rien à voir avec votre âge. Ça voir avec vos capacités, votre esprit, vos facultés, etc. Ça, en général, ça a très peu à voir avec votre âge chronologique. Et c'est ça un peu la cible ou l'objectif de mon livre, de mes conférences, TED, etc. C'est de changer la discussion autour du vieillissement, pour voir le vieillissement comme non comme une espèce de défaillance ou une malédiction ou une maladie. Au contraire, c'est une aventure qu'on devrait embrasser avec un esprit ouvert, de voir la vie comme un processus d'ouvrir les portes plutôt que les fermer. Et si on fait ce changement, ce clic ici dans la tête, ça a un impact énorme dans la vie réelle et quotidienne.
Donc, en prendre conscience, il y a comme deux aspects à cette question-là. Il y a l'aspect extérieur, donc la société qui nous met dans des cases, la retraite, machin, ici et ça. Et tu l'as dit tantôt, il y a le côté personnel. Toi, à 48 ans, tu te trouvais, tout d'un coup, tu t'es posé des questions. Et ce que je vois souvent, moi aussi, dans mes coachings, je coach beaucoup de gens pour la longévité, c'est un des angles, c'est que ça commence à l'intérieur de soi, se sentir vieux. On a beau changer l'extérieur, mais tu l'as bien dit dans ta réflexion, ça part de soi, ce travail-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent vieux? Comment est-ce qu'on peut remédier à ça?
Mais ce qui m'a vraiment frappé dans mes recherches, c'est que l'âgisme est une prophétie autoréalisatrice. En fait, adorer la jeunesse et dénigrer la vieillesse vous empêche de bien vieillir. Et ça, c'est clair, les faits, les données sont là. Si vous croyez que vieillir va être nocif et mauvais et négatif, il le sera. Vous serez plus susceptible au déclin physique et mental, à la démence et même à une mort prématurée. Alors, c'est au fond, pour moi, l'âgisme est un acte d'automutilation par excellence. Alors, un premier pas, le début, le point de départ, c'est de changer notre vision du vieillissement, d'accepter que, oui, bien sûr, il y a des choses que nous perdons dans le chemin. Mais il y a plein de choses qui restent exactement les mêmes. Il y a des choses aussi qui vont même s'améliorer. Et quand nous avons une vision plus honnête, mais aussi plus optimiste, plus réaliste, on va vieillir. On va mieux vieillir, en fait. C'est le point de départ. C'est pas la fin de l'histoire. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se maintenir en bonne forme, physiquement, émotionnellement, mentalement, etc., cognitivement, etc. Il y a plein de trucs, plein d'astuces. Mais pour moi, toujours le point de départ, c'est de mettre l'âgisme, le vieillissement dans un nouveau cadre. D'avoir un cadre beaucoup plus nuancé, beaucoup plus optimiste. Et beaucoup plus honnête, au fond.
Dans ton livre sur l'âgisme, tu parles de la courbe du bonheur, que vieillir, qu'après 50 ans, notre bonheur remonte. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette courbe-là? C'est aussi mon expérience parce que je suis rendue là.
Le savoir, mais ça ne m'étonne pas. Oui, parce que ça, c'est un des stéréotypes les plus connus et moches, non, sur le vieillissement, c'est que vieillir est triste, c'est déprimant. Mais et si on regarde les mots qu'on utilise pour décrire les gens plus âgés ou dans la seconde moitié de la vie, triste, grincheux, des mots négatifs en fait. Le fait la vérité, c'est que les études démontrent que les êtres humains, nous suivons une courbe de félicité, de bonheur en forme de U. Alors, on commence très haut dans l'enfance, on tombe au fond, au Moyen-Âge, entre
quarantaine,
ouais. Puis on débute, on rebondit vers le sommet après les 50 ans. Et c'est pour ça que les adultes de plus de 55 ans, partout dans le monde, parmi eux, on trouve les niveaux de bonheur, de satisfaction de la vie les plus élevés. Alors, ce qui va complètement contre l'histoire, le message qui nous envoie la culture, qui est que vieillir, c'est déprimant, c'est triste, c'est noir, c'est ténébreux, c'est un désastre. On trouve aussi la même courbe de bonheur chez les chimpanzés, les singes, etc., les bonobos, qui suggèrent que cette courbe de bonheur est même codée dans génétiquement dans nos gènes de, comment on dit ça, dans le génome des primates, non? C'est quelque chose qui nous attend dans la seconde moitié de la vie.
Ça me fait penser ce que tu es en train de raconter. Du temps que j'étais journaliste, j'étais allée rencontrer les centenaires à Okinawa. Et là-bas, c'est le contraire. Plus tu es vieux, plus tu es célébré, plus tu as de responsabilités, plus tu as de reconnaissance sociale.
Et on trouve aussi un autre phénomène qui fait partie de ce même processus, c'est que dans la seconde moitié de la vie, en général, on est plus à l'aise avec nous-mêmes, on se connaît mieux, on est mieux dans sa peau, et on s'y inquiète beaucoup moins pour les opinions des autres. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une sensation de liberté. C'est une libération énorme. ne pas se sentir obligé de penser aux autres. Non, il faut penser aux autres, mais de naviguer les opinions et les expectatives des autres. On peut créer et suivre notre propre chemin. Et c'est pour ça que plein de monde après les quarantaines se connaissent pour la première fois et ils font des changements dans leur vie assez tectoniques. Ils vont dire, bon, ce que je vivais avant, c'était pas la vie pour moi. J'étais en pilote automatique, mais maintenant j'ai une certaine clarité, j'ai une certaine vision, je me connais, je sais ce que je peux contribuer au monde et ce que je cherche du monde. Et ça nous permet de créer un nouveau chapitre ou plusieurs chapitres lumineux dans cette partie de la vie, cette seconde moitié de la vie.
On va revenir au mythe autour de l'âgisme. Avant ça, j'aimerais ça que tu nous partages l'expérience que tu as vécue qui m'a beaucoup frappée dans ton livre où tu racontes que tu as mis un habit et que pendant quelques heures, tu te sentais comme une personne âgée. Alors, raconte-nous.
Oui, c'est très intéressant. Ça s'appelle un aging suit en anglais. Alors, c'est un habit de vieillir ou de vieillissement.
De vieillissement.
Et l'objectif, c'est que la personne qui s'habille avec ça vous donne 30 ans de vie. Alors, moi, à cette époque-là, j'avais peut-être 48 ans, 49 ans quand je l'ai essayé. Alors, ça prend peut-être 5-10 minutes pour s'habiller avec cet habit. Et après ça, j'ai eu 80 ans. Et c'est un changement brutal et brusque. Et ça m'a beaucoup déprimé parce que c'était peut-être la première expérience que j'ai eue dans ce processus d'écrire le livre. Et c'est tellement déprimant parce que le changement a été affreux, c'était un cauchemar absolu. Je me sentais, j'étais incapable de bouger, d'entendre, d'écouter. C'était une horreur. Il faut souligner quelque chose de très important de cette histoire, c'est que personne a autant de malchance pour souffrir, parce que l'habit te donne tout, absolument tout. Les problèmes qu'on peut avoir avec le vieillissement.
Tous ensemble, et
en 5 minutes. Et alors, dans la vie normale et réelle, on a le temps de s'adapter, peut-être de se guérir un petit peu, de changer notre vie quotidienne pour pouvoir minimiser les effets, etc. Si ça t'arrive en 10 minutes, c'est autre chose, hein. Moi, j'ai quitté ce laboratoire avec un esprit complètement détruit. Mais je me suis rendu compte après que c'était pas une expérience authentique de vivre 30 ans, parce que j'avais vieilli 30 ans en 5 minutes. Ça va être affreux pour n'importe qui, hein. Et après ça, une semaine après cette expérience, je suis allé en France pour visiter un tournoi de cyclisme pour des cyclistes de 50 ans, des masters. Alors, c'est de 35 ans jusqu'à la mort, non? Il y avait des cyclistes de 85 ans, de 80 ans, qui avaient une force incroyable. Alors, ça m'a aidé à retrouver un peu mon mojo, disons, ma vocation par rapport à ce livre, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre côté de la médaille, un autre côté de l'histoire. Mais, c'était comme un exercice intellectuel. Ça a été très intéressant et très, très frappant. Mmh. Mais c'est pas l'expérience c'est l'expérience de n'importe, de personne, en fait.
Un des signes qu'on est soi-même victime, qu'on contribue à l'âge, c'est de vouloir cacher son âge. T'en parles beaucoup de ça, de quelle raison est-ce qu'on pourrait avoir d'avoir honte de notre âge? Pourquoi est-ce qu'on, bon, pas on ment, mais on peut être tenté de mentir sur notre âge?
Je pense que vieillir, en fait, nous provoque des sensations, des sentiments super négatifs, hein. Grâce au culte de la jeunesse, l'idée même de vieillir nous provoque des sentiments de honte, de peur, de dégoût, de culpabilité et de déni aussi. De déni, en fait, on veut pas admettre qu'on a, je sais pas, 45, ça va. Moi, j'ai une amie à moi a célébré son anniversaire de 39 ans il y a pas longtemps. Pour la quatrième fois. Alors, ça fait partie de cette idée que on essaie d'éviter, de nier, le changement qui est c'est le processus le plus naturel au monde. Tout le monde est en train de vieillir. Même quand on a 18 ans, on est en train de vieillir. Mais on a tellement créé une culte de la jeunesse. Et on a tellement vilifié, ou on a tellement mis dans une boîte négative et ténébreuse l'idée de vieillir, que ça, on n'a pas. Même il y a eu un exemple qui m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais juste avant la pandémie, un type qui s'appelle Emil Rattleband a fait les gros titres un peu partout dans le monde, parce que quand il s'est présenté devant le juge dans un tribunal aux Pays-Bas, il est hollandais, il a réclamé le droit de changer sa date de naissance officielle. Il voulait passer de 69 ans à 49 ans, du moins sur papier. Et quand le juge lui a demandé, mais pourquoi vous voulez éliminer deux décennies de vie des archives, Rattleband lui a répondu, bon, monsieur le juge, c'est très simple, si je suis capable de m'auto-identifier comme un homme plus jeune, j'aurai plus de succès au travail et aussi plus de succès sur Tinder, hein, là, parce que les femmes sont plus susceptibles à sortir avec moi s'ils pensent que j'ai 20 ans, je suis un homme plus jeune. Et le juge, en fait, le juge a refusé sa requête. Et moi, je pense que c'est correct. La décision a été correcte, parce que l'idée de, on revient un peu vers cette idée que j'ai mentionnée au début, que l'âgisme est un acte d'automutilation. Alors, Monsieur Rattleband, quand il change sa date de naissance, il a droit de changer. Il entre dans l'âgisme, en fait, il le fortifie. Il se fait mal à lui-même. Alors, refuser le droit de changer de date de naissance officielle, au fond, c'est un acte de salvation. On le sauve, c'est une manière de sauver de Monsieur Rattleband de lui-même.
Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est violent de vouloir éliminer 20 ans de sa vie, de son histoire personnelle.
Ouais. Et ouais. En fait, si on demande aux gens, est-ce que tu aurais le goût de retourner il y a, je sais pas, 30 ans, la majorité des gens vont dire que non. En fait, on revient vers cette histoire de la courbe de bonheur, etc. Et toutes les choses qui s'améliorent avec le vieillissement. c'est que les gens se rendent compte qu'ils se connaissent. Moi, j'ai 54 ans maintenant. J'ai beaucoup apprécié mais les années entre 20, 30, 35. Mais je voudrais pas y retourner. Hein. C'était des années super, fantastiques, merveilleuses. Mais j'ai beaucoup appris. Je voudrais pas sacrifier tout cet apprentissage, ces relations, ces aventures, cette autoconnaissance sur l'autel de quoi? D'avoir des photos d'hommes de 25 ans ou 30 ans? Non. Mmh. Et c'est intéressant. Partout dans le monde, à tous les niveaux socio-économiques, on trouve la même chose que la réponse à cette question. Est-ce que tu retournerais à 25 ans ou à 20 ans? La majorité, c'est un non très fort.
Très catégorique, ouais. Dans un sens plus large là, de réflexion, les sociétés agissent, je pense que c'est beaucoup le cas en Amérique du Nord et en Europe. J'ai l'impression qu'on se prive de beaucoup de savoir, de sagesse, d'intelligence, de potentiel, de solutions quand on traite nos personnes âgées comme des personnes justement à la retraite qui n'ont plus leur place dans la société. On l'a vu pendant la pandémie ici, puis chez vous aussi, les personnes dans les résidences pour personnes âgées, c'est comme on les pousse à part plutôt que les garder avec nous. Moi, ça va te penser là-dessus. Qu'est-ce qu'on se prive comme société?
C'est une perte énorme parce que c'est une section de la population hyper, hyper productive, hyper sage, hyper compétente. Et en fait, en ce moment, au Canada, ici en Angleterre où j'habite, partout dans le monde occidental en général, il y a un problème avec la pénurie de talents. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de gens pour les emplois qui existent. Mais en même temps, grâce à l'âgisme et au culte de la jeunesse, nous avons toute une section de la population qui a été complètement abandonnée ou éliminée du marché du travail. Alors, on peut réunir ou mettre ensemble ces deux phénomènes pour un des phénomènes peut être un remède pour l'autre. On a la solution devant nous. Et pourquoi? C'est pas juste parce qu'il y a des gens et ce sont des êtres humains qui peuvent faire ces travails et bosser comme n'importe qui. Il y a des talents et des compétences que nous gagnons avec l'âge qui n'existent pas parmi les jeunes. En fait, on voit que les compétences sociales s'améliorent avec l'âge. On a plus de capacité pour voir les connexions, pour comprendre comment le monde ça fonctionne. La créativité, on peut être créatif à n'importe quel âge. C'est un autre grand mythe par rapport au vieillissement que la créativité appartient aux jeunes. C'est faux. C'est complètement faux.
On peut être créatif. Dans ton livre d'ailleurs, tu parles de David Bowie, la citation de David Bowie.
Oui, exactement. Et c'est pour ça que, et même il y a des formes de créativité qui reposent sur deux choses qui sont les apanages de vieillissement, le temps et l'expérience. C'est pour ça qu'on trouve des exemples de créativité extrême dans les derniers chapitres de la vie, dans l'histoire, et remplis d'exemples de Michel-Ange, Matisse, Beethoven, Bach. David Bowie est un bel exemple, non? Qui est jusqu'à son dernier album. Il jouait avec les limites de ses propres talents, il faisait des expériences, il se auto-réinventait constamment. Il y avait une créativité lumineuse. Et ça, il y a une jolie citation, oui, je ne me rappelle plus de... Je la connais en anglais, c'est « Le vieillissement, c'est un processus par lequel on se transforme dans la personne » qu'on aurait toujours dû être
ou on devient finalement soi-même en vieillissant.
Oui, en fait, ça c'est plus simple. Je connais beaucoup de citations, j'ai trouvé beaucoup de très jolies citations sur le vieillissement. Pour moi, c'est ma préférée, c'est celle de Bowie. C'est l'idée que le vieillissement, c'est pas un processus de perte, c'est un processus de découverte. En fait, on essaie d'arriver à la source, à l'essence de soi-même, non? C'est Michel-Ange, non, qui avait cette citation de le métier, la vocation, l'objectif de sculpture, c'est de libérer l'ange qui se trouve dans la pierre, non? Et moi, je pense que c'est une jolie métaphore, non, pour le vieillissement, c'est ce qu'on fait chacun avec notre processus de vieillir. Si on embrasse le vieillissement, c'est qu'on on essaie de libérer notre propre ange.
Oh, c'est une belle image. Tu parles beaucoup de créativité, puis il y a aussi quelques citations dans ton livre qui sont intéressantes sur la créativité. C'est que moi, je pense que la créativité, bon, ma coach m'aide beaucoup dans ce sens-là, mais que ça garde en santé, ça garde alerte, ça garde vivant, ouais. Ça garde allumé.
Tout à fait. La créativité est en même temps, l'apprentissage. Ça, c'est si on me demande quelles sont mes astuces pour mieux vieillir, etc. Vieillir audacieusement, etc. C'est continuer à apprendre, l'apprentissage continu et la créativité. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Et comme tu l'as bien dit, non, c'est un phénomène, c'est un exercice, c'est une activité qui nous nourrit, qui nous maintient frais, en forme, physiquement, cognitivement. Au point de vue émotionnel aussi. Alors c'est là pour tout le monde l'apprentissage. C'est pas quelque chose que pour la bourgeoisie ou pour le 1% de n'importe qui peut ouvrir un livre ou un site web ou essayer d'apprendre quelque chose de nouveau ou de se mettre dans un contexte de nouveauté, quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté qui nous maintient fort, non, et robuste et costaud.
C'est un des moteurs du journaliste, toi et moi, deux journalistes à la base.
Ouais, la curiosité, non?
La curiosité, c'est l'envie d'apprendre, l'envie d'en savoir plus, de découvrir. OK. Ouais. Dans un des TED Talks que tu as fait, je vais mettre le lien pour que les gens puissent y aller, tu parles de 4 mythes stéréotypes liés à au vieillissement. Est-ce que tu pourrais nous les résumer? Donc, le premier, c'est déprimant de vieillir. Ouais. T'en as parlé un peu, là, mais je te laisse aller.
Le deuxième, c'est la créativité. En fait, on en a déjà parlé un petit peu. Je peux peut-être ajouter une belle citation de l'écrivaine Maya Angelou, qui a dit, encore une fois, je connais la citation, ça serait en français un peu, vous ne pouvez pas épuiser votre créativité, plus vous l'utilisez, plus vous en avez, plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Oui, alors, ça c'est un joli résumé un peu du sujet de la créativité. C'est là pour tout le monde et ça nous fait bien. Ça fait bien à l'être humain. Quoi de la productivité? Aussi, on en a parlé un petit peu là, que les gens deviennent. En fait, la productivité augmente avec l'âge, surtout dans les travaux qui basés sur les compétences sociales, parce que les compétences sociales s'améliorent avec l'âge. Oui, on devient plus habile à saisir la vue d'ensemble, à trouver des solutions pour des problèmes, et aussi pour l'entrepreneuriat. Si on regarde dans les médias et on pense aux fondateurs de startups, quelles sont les images ou les noms qui nous viennent à l'esprit? C'est Mark Zuckerberg, c'est le jeune de 19 ans qui crée une nouvelle entreprise dans le garage de ses parents. Et ça, il y a des exemples de ça, c'est certain, mais c'est pas toute l'histoire du tout. En fait, les études et les statistiques, les chiffres démontrent que vous avez plus de probabilité de lancer, de fonder un startup de succès à partir de 45 ans. En fait, ce sont les parents et même les grands-parents des Zuckerberg du monde. Ce sont les Zuckerberg et pour qui d'autres, Jack Dorsey, ces jeunes-là qui monopolisent les gros titres. Mais ce sont les gens plus mûrs et plus âgés qui, dans le monde réel, qui sont en train de conquérir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est peut-être le quatrième. Et le cinquième, on revient au sujet de l'apprentissage, parce que ça, c'est un autre mythe toxique par rapport au vieillissement, c'est qu'à un moment donné, on perd la faculté d'apprendre. L'apprendre, c'est pour les jeunes. Et ça aussi, c'est un grand mensonge. C'est un mythe super toxique, non? Parce que ça nous limite et on a besoin de continuer à apprendre pour nous maintenir, nous rafraîchir et nous maintenir en bonne forme. Et c'est pas une faculté qui se... On perd pas de cette faculté, on est capable de continuer à apprendre jusqu'à la fin. C'est pas... Et en fait, ça, c'est, il y a peut-être un commentaire un peu plus méta que je peux faire ici par rapport à l'apprentissage. Ce qu'on a créé dans ce monde, c'est un plan de vie de trois stages, de trois étapes, trois chapitres. Le premier chapitre, c'est l'apprentissage, c'est l'éducation, c'est la jeunesse. Puis le deuxième chapitre, c'est on travaille, on gagne des salaires, on peut avoir des familles, des enfants. Puis, troisième étape, la pension, on cesse de travailler, c'est le bingo, une maison de retraite ou quoi que ce soit. Et ce modèle là a complètement perdu sa logique. Ça n'a plus de sens dans un monde où la plupart des gens vont continuer jusqu'à 80, 85 ans. Ça a aucun sens. Cesser de travailler ou se faire la retraite à 55, 60 ans, t'auras peut-être trentaine d'années à remplir.
C'est les meilleures années de sa vie. On est plus libre, on n'a plus de jeunes enfants, on a moins de stress financier.
Exactement. Alors, c'est... ouais, tout à fait. On perd une opportunité glorieuse quand on dit non, c'est fini après, je ne sais pas, 55, 60 ans, faire la retraite plus tôt. Je ne suis pas contre la retraite. On peut peut-être travailler un peu moins. Ça dépend de la personne. Il n'y a pas de recette universelle ou balle magique. Mais l'idée, le principe en soi de cesser avec il y a un moment d'arrêt absolu à 60, 62 ans dans un monde où les gens vont continuer à 80, 85 ans, peut-être à 100 ans. Moi, j'ai 54 ans. Si je continue, mon papa, il a 84, il va avoir 88 ans. Moi, j'ai l'impression, je crois que je vais continuer jusqu'à, comme lui, 88, 89 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 54 ans, je suis arrivé à la moitié, je suis dans la moitié, au point moitié de ma vie. Alors, 34 ans depuis 20 ans, à 54 ans, 34 ans jusqu'à 88 ans.
Wow!
C'est quand on commence à voir avec cette optique, non? Point de vue, ça change complètement le calculus, non? Les calculs, ouais, qu'on fait par rapport à la vie à n'importe quel âge, non? Avec 54 ans, c'est là peut-être, je suis même pas rendu à 50% de ma vie d'adulte. C'est incroyable, incroyable.
C'est fascinant de voir ça comme ça, parce que moi, je dis toujours à mes amis, aux gens qui m'entourent, moi, je veux travailler jusqu'à 90 ans. C'est dans ma tête, bon, à 90 ans, on verra à ce moment-là ce qu'on va faire. Tu parlais, je fais un peu de coq à l'âne, tu parlais des startups et des gens de 45 ans et plus qui réussissent mieux. J'avais lu il y a plusieurs années aussi, que c'est vrai pour les couples plus âgés, les couples qui se rencontrent après 45 ans, le taux de divorce est moins élevé. Généralement, c'est parce qu'on se connaît mieux.
Tout à fait. Oui, ouais. C'est un autre bienfait du vieillissement, non? On se connaît mieux, alors on peut être plus productif au travail, mais aussi dans la vie de couple, dans les moments plus intimes, on se connaît plus. Oui, tout à fait. Exact. Mais enfin, un autre exemple de start-up, il y a deux jours, j'ai lu un article sur la première fondatrice féminine, la première femme à fonder une nouvelle banque en Angleterre. Elle a 64 ans. Elle a fondé une banque en Angleterre à 64 ans. Et c'est juste le point de l'iceberg. Il y a des exemples, des milliers d'exemples, d'une gamme incroyable, sans limite d'exemples, et de plus en plus, parce que le monde est en train de vieillir. Alors, chaque jour, il y a plus de gens plus âgés dans le monde. Ça devient de plus en plus difficile à les dénigrer, les éliminer, les pousser vers l'autre côté. Pourquoi? Parce que ils sont en train de vivre pleinement devant nous. Et on voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les influencers, les grand influencers, les grands-parents, ce sont des influencers, ce sont pas des figures excentriques ou un peu pour rigoler, ce sont des vrais influencers, des gens qui ont des millions de followers, et on voit aussi, à mon avis, les réseaux sociaux, ça peut être un outil incroyable pour redéfinir le vieillissement pour le 21e siècle, non? Parce que chaque jour, il y a des millions et des millions de personnes dans la cinquantaine, soixantaine, quarantaine, 75e, de centenaires qui publient des photos et des vidéos qui montrent leur vision, leur version d'avoir 55, 60. Et cette version n'a rien à voir avec les stéréotypes négatifs, déprimants et ténébreux. Au contraire, ce sont des versions qui incluent de tout. Ce sont des gens qui lancent des entreprises à 64 ans, ils font des banques, qui courent des marathons à 90 ans, qui font n'importe quoi, qui tombent amoureux à 100 ans. Et c'est important d'avoir des role models et des modèles pour suivre là, parce que
c'était ma prochaine question. Dans ceux qui sont connus là, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de role models? Bon, cette bancaire qui ouvre une banque à 64 ans.
Incroyable. Moi, je trouve que chaque fois que je me lance vers les réseaux sociaux, je trouve un autre exemple. Il y en a plein. Mais un exemple très, très connu, surtout dans le monde anglo-saxon, c'est David Attenborough, le grand documentariste environnement. Lui, il a 95 ans, je crois, maintenant. Et c'est un type super intelligent, super branché, super au courant de tout. Il a une énergie incroyable. Et c'est pas...
Il fait encore des documentaires.
Oui, il gagne des prix et il fait partie du débat sur le futur de l'humanité, l'environnement, etc. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de faire la retraite et être dans son jardin et jouer au bingo. Et je ne suis pas contre jouer au bingo. J'aime bien le bingo. Je vais dénigrer le bingo ni être dans son jardin. C'est fantastique. On peut faire ça à n'importe quel âge. Mais ce que j'essaie de promouvoir, c'est d'avoir une multiplicité, une multitude d'images du vieillissement. Alors, on peut, à 54 ans, on peut, comme moi, ce soir, je vais aller jouer au hockey. Je joue contre des joueurs de 17 ans, qui peuvent être mon fils, même mon petit-fils. Et ça, c'est une version, c'est ma version d'avoir 54 ans. Pour une autre personne, ce serait peut-être, je sais pas, il y aura des gens qui vont souffrir aussi, qui vont avoir, n'auront pas beaucoup de raisons, ils vont pas pouvoir jouer au hockey, ou ils vont devoir peut-être changer de sport ou jouer aucun sport. Il faut éviter de créer un nouveau standard d'or et que tout le monde se sente incapable d'y arriver. Non, c'est pour moi le futur se trouve dans un monde dans lequel il y a une gamme d'images, de possibilités et que chacun
crée son modèle soi-même.
On en fonction de nos propres désirs, nos propres facultés, capacités, etc. On choisit et on définit notre propre chemin. Et on n'a pas honte de notre chemin. On en est fier. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif. C'est pas de dire, si tu joues pas au hockey à 54 ans, c'est la défaillance. Non, au contraire. Moi, j'ai jamais, j'ai jamais couru un marathon. Je doute que je le ferai parce que j'aime pas courir autant. j'ai pas honte de ça, c'est ma choix, hein, c'est mon chemin et le chemin que j'ai choisi, que je dessine et je définis tous les jours, ça marche pour moi et c'est ça un peu ce qu'on essaie d'établir ici.
Dans les autres rôles modèles, celui-là en France, tu dois connaître Edgar Morin peut-être? Je continue à 100 ans à alimenter, à prendre part au débat public et aux réflexions sur l'avenir de l'humanité.
Ah, super, non, je connais pas. Le nom me dit quelque chose, mais
OK. L'autre chose aussi qui joue en notre faveur pour le vieillissement, c'est la science. Parce que bon, il y a 100 ans, 200 ans, on ne vivait pas jusqu'à 80, ouais. 90 ans, ou du moins, c'était les exceptions. Donc, on peut dire que la science est un peu au service du vieillissement.
Totalement. Oui, c'est le moment le plus doré de l'histoire pour vieillir, parce qu'on a des médications, des drogues, des techniques incroyables, des chirurgies. On peut faire des choses quasiment de science-fiction pour pouvoir mieux vieillir, en fait, pour minimiser les effets de l'âge et des années et du temps. Alors oui, tout à fait. Un exemple que je cite souvent, c'est Andy Murray, le joueur de tennis écossais, qui a, lui, il a 32, 39, 33 ans, 30, 32, 33 ans. Mais il y a 2 ans, il s'est fait opérer. Il a maintenant une prothèse maintenant.
Une hanche.
C'est l'hanche droite, je crois que c'est. Et lui, il continue à jouer. C'est pas le même joueur qu'il était à 24 ans, mais c'est le même chez Federer ou n'importe qui. On n'a pas les mêmes outils à 33 ans qu'on avait à 24 parmi les athlètes élites, non? Mais il continue à jouer comme professionnel. C'est incroyable. Et impensable. Et c'est là pour pas tout le monde. Ça dépend du pays, mais au Canada ou en Angleterre, on a tous le droit d'avoir une prothèse. C'est pas payant, c'est quelque chose que l'État couvre. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple parmi beaucoup d'exemples qui nous rassurent. Non? La science n'est pas capable de tout guérir, mais on est capable de guérir beaucoup plus que jamais et encore ça, de plus en plus. Et même quand on perd la faculté de les mains, on a maintenant de la technologie qui fait que on peut canaliser les messages du cerveau pour pouvoir contrôler des ordinateurs ou plein de trucs. Alors, ça va continuer à devenir de plus en plus positif grâce à la science.
Il faut être réaliste aussi. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, il y a parfois le corps, parfois on a plus de problèmes. Et comme coach, moi, comme coach santé, je travaille beaucoup là-dessus. Mais il faut aussi, en vieillissant, prendre mieux soin de soi, respecter nos limites, nos besoins. C'est quoi ton approche à toi par rapport à ça?
Bien manger, il faut bien manger. Là. Ça, c'est très important, là. Le régime. Pas faire le régime, mais bien manger. L'alimentation est essentielle. C'est comme une pierre angulaire là, du vieillissement. Maintenir, bon, on a parlé de l'apprentissage, de maintenir la curiosité, la nouveauté, ça c'est très important aussi. Maintenir aussi les relations, les rapports humains, les connexions humaines, parce que nous sommes, l'être humain, c'est un animal social, on a besoin de liens émotionnels, les liens psychologiques, etc. avec les autres. Alors, souvent avec les changements dans la vie, etc., on peut peut-être perdre le contact avec les autres et tomber dans la solitude. La solitude, ça nuit. Hein? Ça fait mal à n'importe qui, à n'importe quel âge. Alors, pour moi, un conseil basique, non, central, c'est toujours de faire l'effort, non, de maintenir ces rapports sociaux, humains.
D'être en relation. Les gens qui souffrent d'isolement sont plus malades que les autres, ça c'est certain.
Ouais, c'est comme ouais.
En terminant, Carl, j'aimerais ça dans très concret là. Toi et moi, ou les gens, on peut pas tout changer la société, quoi qu'avec des ouvrages comme le tien, ça tend à. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour diminuer l'âgisme, pour éliminer l'âgisme dans nos sociétés? Ça part d'où? Comme individu?
Comme individu, je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut faire tout le monde. Le premier pas, c'est de modifier notre langage, parce que je suis convaincu que ceux qui nous écoutent en ce moment ont utilisé ou utilisent des phrases agissent. Elles sont là, elles font partie du débat, du dialogue quotidien. Des exemples comme mais en anglais, on dit senior moment, là, un moment de senior quand on oublie quelque chose. J'ai passé l'âge de.
Je suis du bon côté de la quarantaine.
Ou jeune de cœur. Et toutes ces phrases qui. Nos intentions peuvent être bonnes, mais l'effet, l'impact d'envoyer ces messages, ces phrases-là dans le monde, c'est de renforcer l'agisme. Alors, un premier conseil serait de laisser tomber ces phrases, de trouver une autre phrase ou simplement d'éviter l'usage de ces phrases. Et ça changera un peu le discours général, hein, dans la société. Et un deuxième conseil, ça a à voir avec un sujet qu'on avait touché avant, c'est l'idée d'être honnête sur ton âge, là, de ne pas mentir sur ton âge, de ne pas célébrer 39 ans 4 fois, non, d'être honnête, d'être ouvert avec ton âge et après ça de sortir pour montrer au monde tu es capable, plutôt que de mentir, parce que mentir, ça te met dans ce processus de auto-mutilation, non? Parce que si tu dis, bon, moi je disais par exemple, je sais pas, 54 ans, j'ai 49 ans. Qu'est-ce que ça signifie? De ma part, ça signifie que je fais partie de l'âgisme. J'accepte le culte de la jeunesse. J'accepte et j'embrasse les règles d'une société âgiste. Au contraire, quand on dit, quand je dis, ou quelqu'un de mon âge dit, j'ai 54 ans, j'ai pas honte d'avoir 54 ans. En fait, j'en suis fier. Ça change la température. Ça change un peu la sensation, l'esprit qui existe autour du vieillissement. Alors, ce sont deux choses qu'on peut faire. Modifier ton langage et être honnête.
Hey, merci beaucoup, Karl-Honoré. Vraiment, c'est super riche comme échange. Puis, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te trouver?
Ah oui, j'ai un lien pour tous. Et c'est mon nom, karlhonoré.info. Karlhonoré.info.
Est-ce que tu as décidé quel serait ton prochain sujet d'investigation après la lenteur et l'âgisme? Est-ce que tu as...
J'attends la prochaine crise existentielle. On verra.
Un grand merci, puis à la prochaine.
Merci, à la prochaine.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!